RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, retour au Kosovo, 20 ans après la guerre. C'était le 24 mars 1999. Les avions de l'OTAN lançaient contre la Yougoslavie de Slobodan Milosevic une campagne de bombardement qui allait durer 78 jours, tandis que les combats s'intensifiaient sur le terrain entre les forces de sécurité serbes et la guérilla de l'armée de libération du Kosovo, et que près d'un million de Kosovars prenaient la route de l'exil. Aujourd'hui encore, les blessures de la guerre restent vives et les promesses de la paix tarde à se concrétiser. 20 ans après la guerre, retour au Kosovo, grand reportage signé Laurent Gélin et Jean-Arnaud Derrins.
Autrefois, il n'y avait pas de route asphaltée. Seul un chemin de terre partait de la ville de Vuštri, dans le centre du Kosovo, pour se lancer à l'assaut des collines de la Drenica, le bastion historique du nationalisme albanais. On tombait alors parfois sur un checkpoint tenu par quelques hommes en armes. Même s'ils n'étaient pas toujours visibles, les combattants albanais contrôlaient le terrain, du moins entre les offensives de la police serbe, comme le raconte Mehmet, un paysan de la Drenica. C'était avant les bombardements de l'OTAN, quand la guerre commençait à s'étendre à tout le Kosovo.
Durant la journée, on se cachait dans les montagnes et quelques-uns d'entre nous revenaient la nuit au village, mais nous avions très peur. Il y avait aussi beaucoup de réfugiés. Nous n'étions nulle part en sécurité.
C'est dans cette région de la Drenica qu'avaient éclaté les premiers affrontements entre les guérilleros albanais de Lučeka et la police serbe au tout début du mois de mars 1998. C'est à ce moment que Riza Bilali a commencé à arpenter ces collines, toujours battues par le vent. Directeur du lycée albanais clandestin de la ville de Vuštri, Riza Bilali était un cadre de la Ligue démocratique du Kosovo, la LDK, le mouvement dirigé par Ibrahim Rugova, qui incarna durant toutes les années 1990 la lutte des Albanais du Kosovo.
Le combat a commencé dans ce village. Donc ce village ici nommé Cherez, et c'était un village isolé, plus loin du centre de la ville, et plus loin des casernes militaires et checkpoints des policiers serbes. Ici c'est que des villages albanais.
Alors que la Yougoslavie se décomposait dans le sang et que les affrontements faisaient rage en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, les Albanais du Kosovo avaient imaginé une stratégie de résistance non violente face à la répression de Belgrade, mettant en place un gouvernement parallèle sous l'impulsion de la LDK. Après le limogeage des enseignants albanais, ils créèrent leurs propres écoles, bien sûr non reconnues par Belgrade.
Jusqu'à les années 90, c'était une école mixte, serbe, albanais, bosniaque, rome, l'an 80. 10, ils nous ont chassés. Tous les élèves et les enseignants ont été chassés parce qu'ils faisaient des changements des programmes scolaires et ils prévoyaient apprendre la littérature, l'histoire que serbe. On n'a pas accepté ces programmes. Nous avons continué l'enseignement dans des maisons privées, en plein air, dans des caves. C'était terrible, mais il y avait une grande volonté de tous les enseignants, tous les élèves, tous les parents, de continuer, de soutenir, de financer l'école.
Albanais et Serbes avaient toujours vécu et travaillé ensemble au Kosovo, mais durant la dernière décennie du XXe siècle, la féroce répression du gouvernement de Belgrade contribuait chaque jour à éloigner un peu plus les communautés, comme le raconte le photographe Azir Reka, qui se souvient de l'ambiance pesante du Pristina de l'époque.
Au début des années 90, les Albanais et les Serbes ont commencé à vivre dans deux mondes différents. Les Albanais fréquentaient les cafés du quartier de Dardania, c'est ici que se concentrait la vie nocturne. Les Serbes sortaient sur le Corso, au centre de la ville, alors que les Albanais ne s'y rendaient pas. Les jeunes des deux communautés n'avaient pas réellement de différends, mais le système approfondissait chaque jour la séparation. Il y avait par exemple des descentes de police dans les cafés albanais.
« Après l'échec des négociations de Rambouillet menées en février et en mars 1999, sous l'égide du groupe de contact qui réunissait l'Allemagne, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Russie, l'OTAN finit par lancer le 24 mars 1999 une campagne de bombardements aériens contre la Yougoslavie sans l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. Durant 78 jours, les avions de l'Alliance Atlantique lancèrent leurs bombes sur le Kosovo, la Serbie et le Monténégro.
Les jeunes étaient habitués aux interpellations, mais ils voulaient vivre. La guerre, c'était terrible, mais au moins les choses étaient claires. Il fallait soit être du côté de Luceka, soit du côté des Serbes. Durant les manifestations qui avaient précédé à Pristina, personne ne savait d'où pouvait venir la répression, d'où pouvaient venir les balles.
En quelques jours, alors que les premières bombes de l'OTAN s'abattaient sur le Kosovo, des centaines de milliers d'Albanais furent chassés de leur domicile par la police serbe ou préférèrent d'eux-mêmes chercher le salut dans les pays voisins. Neriman Kamberi, qui travaillait à l'époque pour l'ONG Médecins du Monde, tenta de rester à Pristina avant de fuir à son tour en Macédoine le 28 mars.
Tous ces immeubles ont été construits donc sur des terrains privés, hein, des gens de Pristina qui avaient des maisons privées et donc qui ont été expropriés. Et c'est au moment vraiment du développement de la capitale dans les années 60, surtout 70. Et c'était une population mixte. On avait des voisins albanais, serbes. On avait juste des relations de bon voisinage, mais sans plus, quoi. On n'était pas copains-copines avec les voisins. Et au moment donc des bombardements, on voyait de la fenêtre nos voisins du quartier qui se baladaient en Kalachnikov, déjà dans la rue, les Serbes. On était sortis faire des courses, ils vous frappaient, ils donnaient des coups de pied sur vos courses.
Après s'être caché quelques jours dans sa ville de Vouchtri, Riza Bilali finit lui aussi par s'enfuir vers la Macédoine, puis la Turquie, avec sa femme et son fils.
Les paramilitaires serbes mettent des croix sur les maisons des Serbes, donc comme ça, savoir où sont. Qui sont les Serbes, qui sont les Albanais. Le lendemain, ils ont commencé à brûler les maisons, à casser les boutiques, à prendre tout ce qu'ils trouvaient dans les boutiques. Même ma boutique a été cassée. Voyant ça, j'ai décidé de partir. Arrivant à Pristina, il y avait les paramilitaires serbes, la police, qui cassaient les voitures des gens qui étaient en train de rentrer à Pristina. Nous avons continué vers la Macédoine. Il y avait une grande caravane qui continuait vers la frontière. Nous sommes arrivés le soir à la frontière. Il y avait la queue à la douane et ils demandaient de l'argent aussi. Ensuite, nous avons continué vers la Turquie parce que j'avais entendu à la radio que ce camp accueillait des réfugiés kosovars. Et on s'est installé là-bas et la foule des réfugiés arrivait tous les jours. Au début, on était quelques centaines, mais à la fin, on était en tout dans ce camp environ 13 000 réfugiés.
En quelques jours, des centaines de milliers de personnes réussirent à trouver refuge en Albanie, en Macédoine ou au Monténégro. Alors que les journalistes étrangers avaient déserté Pristina, on était sans nouvelles des principaux dirigeants albanais, contraints à se cacher dans la ville soumise aux exactions des forces serbes. Tel fut le sort du sociologue Femi Agani, le principal conseiller d'Ibrahim Rugova, véritable stratège de la résistance non violente albanaise, faussement donné pour mort dès le début des bombardements. Après s'être longtemps caché en ville, ce dernier se décida début mai à fuir vers la Macédoine. Les médias de Belgrade annoncèrent peu après qu'il aurait été liquidé par Luceka, un scénario inventé de toutes pièces, dans le but probable d'aiguiser les divisions dans le camp albanais. Comme le raconte son fils Mentor.
Nous avons essayé de nous enfuir de Pristina le 6 mai 1999. Nous sommes allés à la gare et nous avons pris le train qui allait à la frontière. Mais celle-ci était fermée et nous sommes restés là-bas pendant 2 heures. Le train a fait demi-tour et il s'est arrêté. On nous a fait descendre et ils ont reconnu mon père. Il a été emmené et exécuté 2 heures après. Ma mère et moi, ainsi que tous les autres passagers, nous avons été emportés par des bus et renvoyés vers Pristina. Ma mère l'a cherché durant 2 jours et, au matin, la radio serbe a annoncé que son corps avait été retrouvé près de la ville de Lipiane et qu'il avait été tué par Luceka en raison des conflits politiques qui existaient entre Luceka et la LDK. Ce n'est pas vrai. Mon père a été pris par l'armée yougoslave et il a été tué par l'armée yougoslave.
Which was not truth. My father was taken by the Yugoslav army and he was killed by the Yugoslav army.
Au total, plus de 10 000 personnes ont été tuées durant la guerre du Kosovo et 20 ans après la fin du conflit, on compte toujours quelques 1 500 disparus, dont un millier d'Albanais et 500 Serbes. Le député Driton Chaouchi, lui, a retrouvé les restes de son père et de son oncle il y a quelques années, après l'ouverture d'un charnier dans une caserne de l'armée serbe située près de Belgrade, où des corps de civils albanais abattus durant la guerre avaient été transportés et ensevelis.
Je pense que le cerveau humain n'est vraiment pas préparé à affronter des situations telles que la disparition d'un être cher. Chez les membres de ma famille, il y avait toujours cet espoir qu'il soit vivant, alors que tout montrait le contraire. Aucune preuve, aucune trace rationnelle ne nous montrait qu'il était vivant. Mais comme il avait disparu, nous avons conservé cet espoir. J'avais personnellement arrêté d'espérer 2 semaines après la fin des combats. Mais lorsque l'on a trouvé les restes de mon oncle et un peu plus tard ceux de mon père, j'ai compris inconsciemment au fond de moi-même que j'avais espéré qu'il soit vivant et je ne m'en étais pas rendu compte.
La conclusion d'un cessez-le-feu le 9 juin 1999, le retrait des troupes serbes et le déploiement progressif des soldats de l'OTAN au Kosovo ne permirent pas de mettre fin aux exactions, alors que la roue de l'histoire changeait encore une fois de sens. Plus de 100 000 Serbes furent à leur tour expulsés du Kosovo, bien peu sont revenus. Avant la guerre, Ljubiša Trifunović tenait une pizzeria dans la petite ville de Klina, dans le centre du Kosovo. Depuis 20 ans, il regarde le temps défiler depuis la cuisine de la petite maison qu'il occupe à côté du monastère de Đurđevi Stupovi, près de la ville de Berane au Monténégro.
On est parti en 1999 de Klina. Nous sommes partis avec la dernière vague. Nous avons un statut d'étranger, de personne déplacée au Monténégro, comme si on était là de manière provisoire et que l'on allait revenir là où on vivait autrefois. Ça fait 20 ans que tout le monde nous dit la même chose, les Monténégrins, les Serbes et les Kosovars. Aujourd'hui, on a bien un passeport, mais c'est un passeport qui ne nous permet pas de passer les frontières. On peut aller en Serbie et on peut rester ici, c'est tout.
Ljubiša estime qu'il serait trop dangereux pour lui de revenir au Kosovo.
Ce que je voudrais le plus au monde, c'est revoir mes voisins. Je n'ai pas de frères, mais pour moi, c'était comme des frères. C'était des gens extra. Ce que je voudrais le plus au monde, c'est qu'ils viennent chez moi comme des invités. On partagerait tout, je leur donnerais la moitié du peu que j'ai. Ils viendraient et repartiraient, même si nous, les réfugiés, on ne peut pas revenir au Kosovo. Mais peu importe, il faudrait que l'on rigole encore une fois ensemble.
Les Serbes du Kosovo installés au Monténégro ont perdu le statut officiel de réfugiés et ils se retrouvent pris au piège entre les trois pays. Au Monténégro, ils sont considérés comme des étrangers, mais ils n'ont pourtant toujours que des documents provisoires leur permettant seulement de circuler dans le pays sans pouvoir franchir une frontière. Ivan a fait ses études à Podgorica, la capitale du petit pays, mais ne peut espérer que des emplois précaires.
J'ai achevé la faculté de droit, mais je dois pointer à l'agence pour l'emploi et tout ce que l'on me propose, c'est d'aller faire des boulots saisonniers sur la côte, comme gardien de nuit, serveur ou cuisinier, des choses qui n'ont rien à voir avec ma formation. Mais si je refuse 3 fois de suite un emploi, je suis rayé des listes et je n'ai absolument plus aucun droit.
Quelques 100 000 Serbes vivent aujourd'hui au Kosovo, les deux tiers dans des enclaves disséminées au sud de la rivière Ibar. 20 ans se sont écoulés depuis la guerre, mais les Albanaises et les Serbes vivent dans deux mondes qui s'ignorent. Dès la fin des combats, la chirurgienne Rada Trajković, rare figure indépendante de la scène politique serbe du Kosovo, avait participé aux nouvelles institutions mises en place par les Nations Unies, mais les tentatives de dialogue ont toujours été sabotées par les nationalistes des deux camps.
La guerre était la dernière des options et je pense que nous n'avions pas utilisé toutes les options. Quelqu'un a voulu la guerre, quelqu'un l'a planifiée. Et le pire, c'est que cette guerre a impliqué les Serbes du Kosovo. Pas parce qu'ils ont combattu, mais parce qu'on a fait en sorte d'impliquer chaque Serbe, chaque foyer dans la préparation du conflit. On a distribué des armes dans toutes les maisons, pas pour que les gens les utilisent, mais pour que l'on puisse dire à la fin de la guerre que tous les Serbes étaient armés et qu'ils ont tous commis des crimes. Le but de la guerre était de compromettre les Serbes du Kosovo, alors qu'auparavant, les Serbes locaux ne s'étaient jamais battus avec les Albanais. Mon grand-père et les anciens de ma famille m'ont appris que les Serbes et les Albanais avaient toujours vécu ensemble et qu'ils avaient trouvé des manières de cohabiter, même s'ils ne connaissaient pas le drapeau européen.
Le Kosovo a déclaré le 17 février 2008 une indépendance qui n'est toujours pas reconnue par la Serbie. Et les négociations visant à normaliser les relations entre les deux pays sont au point mort. Alors que les diplomates du monde entier s'épuisent à essayer de mettre autour de la table les dirigeants de Belgrade et de Pristina, la population du Kosovo a bien du mal à se projeter dans l'avenir, alors que l'économie est en berne et que les habitants du petit pays émigrent massivement à l'étranger pour tenter de trouver une vie meilleure. Neriman Kamberi a perdu beaucoup des illusions de l'indépendance.
Quand tu vois que 20 ans après les choses, c'est pas ce dont t'as espéré, pas rêvé, mais espéré, c'est encore pire, quoi. Bah, il y a toujours les plaies, mais ça, c'est les plaies, elles se refermeront jamais. Mais tellement il y a de problèmes politiques, économiques, de non-développement, d'aucun progrès, du moins. Surtout cette jeunesse, quoi, qui est quand même notre force vitale. On voit qu'elle n'a pas vraiment beaucoup d'avenir, de perspective. Même que c'est tout Tchéka, parce qu'il y a eu des gars vraiment, nous on les a vus sur le terrain, qui se sont vraiment battus dans un idéal. Et quand tu vois ce que certains qui sont aujourd'hui au pouvoir, des anciens Tchéka, ont vraiment terni leur image, tu te dis, bah, à quoi bon, quoi.
Même dans la Drenica, dans les montagnes où ont été recrutés les premiers volontaires de la guérilla, plus personne ne se fait beaucoup d'illusions. Raman vient d'une famille de paysans, mais il a abandonné la terre, qui ne lui permet plus de vivre. Il trouve parfois de l'embauche à la journée sur des chantiers.
La situation économique est très mauvaise. Le chômage touche plus de 60% de la population active. C'est pour cela que les jeunes partent, même ceux qui ont fait des études. Nous sommes obligés d'accepter n'importe quel travail physique, et même ces derniers sont rares. Je n'aurais jamais imaginé que nous n'aurions pas de travail 20 ans plus tard, ni que nous ne pourrions pas scolariser nos enfants.
Dans deux décennies, à quoi ressembleront le Kosovo et la Drenica? Les regards se croisent, puis Raman lance catégorique. Écoute, quand si peu de choses ont changé en 20 ans, je vais te dire, cela n'ira pas mieux. 20 ans après la guerre, retour au Kosovo, un grand reportage de Jean-Arnaud Derain et Laurent Gélin.